Avant de se convertir à Jésus-Christ et devenir le plus célèbre des évangélistes anglais, Charles Spurgeon fréquentait régulièrement une église, comme la plupart des gens de son époque. Un dimanche, une violente tempête de neige s'est abattue sur Londres, l'empêchant d'aller à son culte habituel. Il se rendit alors dans une petite chapelle près de chez lui. Mais, à cause du temps exécrable, le pasteur n'a pas pu venir assurer la prêche. Au bout d'un moment, un vieux monsieur s'est levé et est monté en chaire. Il a ouvert le livre du prophète Ésaïe et a lu. « Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Fin de citation. Après avoir lu et relu ce passage, ce monsieur était à court de munitions. Alors, ce qui lui manquait en éclair de génie, il l'a compensé par du tonnerre et s'est mis à taper sur le pupitre en répétant « Tournez-vous vers Dieu, vous tous qui habitez les confins de la terre et vous serez sauvés !» Il remarqua Charles Spurgeon qu'il ne connaissait pas assis au fond. Il s'adressa alors directement à lui et dit « Regarde à Jésus et tu seras sauvé !» Et c'est ainsi que celui qui allait devenir le plus grand évangéliste anglais s'est tourné vers Jésus. Le passage d'Ésaïe que ce brave homme avait choisi est inséré dans une prophétie qui annonce la chute de Babylone 150 ans avant qu'elle ne tombe aux mains des Perses, et alors que la ville est encore sous domination assyrienne. Babylone tire son nom de la fameuse tour de Babel qui, selon l'historien grec Hérodote, faisait 91 mètres de haut sur une surface au sol de 1600 mètres carrés. Un grand truc. Elle se composait de terrasses décalées, superposées, un type d'architecture qui s'appelle ziggourat. C'est à partir de Babel que l'idolâtrie s'est répandue dans le monde. La Babylone antique est aujourd'hui en ruine et sa gloire enfouie dans ses décombres. Mais à la fin des temps, elle renaîtra de ses cendres et rassemblera autour d'elle le pouvoir économique, politique et religieux de l'Antéchrist. Je commence à lire le chapitre 47. « Descends et assis-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone, assis-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. » Verset 1. Après avoir dénoncé son idolâtrie dans les chapitres précédents, Ésaïe annonce maintenant l'humiliation de Babylone, qui est personnifiée. Cette ville était réputée pour ses richesses, son luxe et ses plaisirs. Dieu a jugé Babylone à cause de son idolâtrie, de son arrogance et de sa dureté envers Israël que Nabuchodonosor avait déporté. Dieu ordonne maintenant sa chute comme on commande à un animal. Soit dit en passant, que c'est sur ce même ton que Jésus a parlé à la violente tempête qui s'était abattue sur le lac de Galilée. Je lis le passage. « Jésus se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. » Fin de citation. Il va sans dire que les disciples qui l'entouraient furent plutôt impressionnés. Je continue le texte d'Ésaïe. « Saisis la double meule et moue de la farine, dénoue tes tresses, relève les pans de ta robe et découvre tes jambes pour traverser les fleuves. Ainsi ta nudité sera vue au grand jour et ton opprobre apparaîtra. Je vais exercer ma rétribution et je n'épargnerai personne. » Versets 2 et 3. Babylone, la Vierge royale, est forcée d'échanger ses belles parures pour une tenue d'esclave. Elle est emmenée en captivité et doit accomplir les travaux les plus pénibles. La ville fut détruite par le roi assyrien Sennachérib. Reconstruite, elle devint éventuellement la tête d'un empire, mais fut conquise par Cyrus. Plus tard, et à deux reprises, Babylone se soulèvera, mais Darius Ier, qui succède à Cyrus, mate la révolte et la deuxième fois, il massacre sa population et démolit ses murailles. Je continue. Notre libérateur s'appelle le Seigneur des armées célestes, c'est le Saint d'Israël. Verset 4. Ce cri de victoire provient des Israélites qui apprennent que Babylone est tombée aux mains des Perses. Je continue. Assis-toi en silence, entre dans les ténèbres, communauté des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la reine des royaumes. J'ai été indigné contre mon peuple, j'ai profané mon héritage. Je te les ai livrés, tu les as traités sans pitié, tu as fait peser lourdement ton joug sur les vieillards. Versets 5 et 6. Babylone dominait sur beaucoup de royaumes, mais les ayant tous perdus, elle se cache pour pleurer. Le Dieu souverain, lui, avait livré Israël pour le punir, mais Babylone en a profité pour l'opprimer et maltraiter les plus faibles. Je continue en compressant. Tu t'es dit, je serai reine pour toujours. Maintenant donc, écoute, toi qui trône, confiante, et qui dis en ton cœur, moi, et rien que moi, je ne serai pas veuve et je ne serai pas privée de mes enfants. Eh bien, ces deux mots-là fondront soudain sur toi, la privation de tes enfants et le veuvage. Le même jour, ils t'atteindront dans toute leur horreur, malgré la multitude de tes enchantements, malgré tes sortilèges, dont le nombre est immense. Mais le malheur fondra sur toi, et tu ne sauras pas comment le conjurer. Oui, une catastrophe t'arrivera, et tu ne pourras pas la détourner de toi. Une dévastation dont tu n'as pas idée viendra subitement sur toi. Versets 7 à 11. À cause de leur puissance militaire et commerciale, les Babyloniens se croyaient invincibles. Cette arrogance était particulièrement marquée chez Nabuchodonosor. Un jour, il s'est exclamé, « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que moi j'ai bâti pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Fin de citation. Dieu l'a frappé et il fut atteint de lycanthropie, une sorte de folie dans laquelle le malade s'imagine être un animal. Ésaïe annonce ici que Babylone sera conquise subitement. La cité était partagée en deux par l'Euphrate et séparée des rives du fleuve par une muraille qui comprenait 25 portes s'ouvrant chacune sur un chemin descendant jusqu'au bord de l'eau. Les Mèdes et les Perses qui assiégeaient la ville ont détourné le cours de l'Euphrate puis emprunté le lit asséché pour entrer dans la ville en passant sous les murailles. Ensuite, ils sont simplement entrés par les portes qui étaient restées ouvertes. Le prophète annonce la double peine qui sera infligée à Babylone. Elle sera abandonnée de tous les peuples qui autrefois la courtisaient et sera dépeuplée, ses habitants étant tués ou en fuite. Comme la Chaldée est la patrie de l'astrologie et de la magie, Babylone comptait sur ses devins et astrologues pour la protéger. Mais ils ne lui furent d'aucun secours. Je continue. Continue donc avec tes sortilèges, avec la multitude de tes enchantements pour lesquels, depuis ta jeunesse, tu t'es tant fatigué. Peut-être pourras-tu en tirer un profit. Peut-être sauras-tu te rendre redoutable. Tu t'es tant fatigué à consulter tous tes devins. Qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui compartimentent des zones dans le ciel, qui lisent dans les astres, qui, aux nouvelles lunes, te font savoir d'avance ce qui va t'arriver. Versets 12 et 13. C'est avec une ironie mordante qu'Ésaïe encourage Babylone à se donner à fond dans les pratiques divinatoires afin d'échapper à l'envahisseur. Cette ville était connue pour ses astrologues qui prédisaient l'avenir en interprétant les configurations astrales et les conjonctions des corps célestes. Chaque mois, les devins qui vivaient à la charge de leur souverain lui communiquaient ce qu'il voulait entendre. Les archéologues ont trouvé des tables astronomiques avec leurs doubles déposées dans plusieurs villes de l'Empire. Ce sont les Babyloniens qui ont inventé ce que les Arabes ont appelé plus tard l'almanach. L'astrologie a toujours le vent en poupe de nos jours, comme l'atteste l'omniprésence des horoscopes dans les journaux. D'après le Nouveau Testament, à la fin des temps, les pratiques occultes seront très en vogue dans la nouvelle Babylone reconstruite. Je finis ce chapitre. Les voilà devenus tous comme de la paille que consume le feu. Non, ils ne pourront pas sauver leur vie des flammes. Ce ne sera pas une braise que l'on allume pour se réchauffer, ni un feu devant lequel on s'assoit. Voilà ce que feront pour toi ceux pour qui tu t'es fatigué. Et ceux avec qui tu trafiques depuis le temps de ta jeunesse, Chacun erre de son côté et il n'y a personne pour te sauver. Versets 14 et 15. Les astrologues et les devins vivaient très bien aux frais de l'État. Ils avaient même leur propre quartier dans la ville et le petit peuple travaillait dur pour les entretenir. Mais qu'ils soient magiciens ou hommes d'affaires, tous subiront le feu du jugement divin. Lorsque les envahisseurs seront aux portes de la ville, aucun sortilège ne les empêchera d'y pénétrer. Ce sera du chacun pour soi et les divinités babyloniennes pour tous. Nous arrivons au chapitre 48 qui termine le premier cycle de prophéties de la deuxième section du livre d'Ésaïe qui a commencé au chapitre 40. Cette clôture reproduit et résume les idées principales des 8 chapitres précédents et consiste en reproches, exhortations et promesses qui se succèdent tour à tour. Le chapitre 48 se termine sur une note solennelle qui sert de refrain et qui dit « Mais, a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. » Je commence à lire. « Écoutez bien ceci, ô communautés de Jacob, vous qui vous réclamez de ce nom d'Israël et qui êtes issus des sources de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui, dans vos prières, invoquez le Dieu d'Israël, mais sans sincérité et sans droiture. » Verset 1. Quand le royaume des 10 tribus du Nord fut envahi par les Assyriens, beaucoup d'Israélites se réfugièrent chez leurs frères de sang du Sud et furent assimilés aux Judéens. Ce discours d'Ésaïe s'adresse spécifiquement à Juda, mais aussi aux réfugiés du Nord, car tous sont issus d'Abraham, Isaac et de Jacob, leurs ancêtres. À cette époque, prêter serment au nom de l'Éternel et pas au nom de fausses divinités était un acte cultuel et l'un des traits distinctifs des adorateurs du vrai Dieu. Mais Ésaïe les accuse d'hypocrisie parce qu'ils suivent un rituel sans y mettre leur cœur qui reste froid, indifférent à l'Éternel. Je continue. Car ils prennent le nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est l'Éternel des armées. Verset 2. Les habitants de Juda étaient très fiers de dépendre de Jérusalem et d'être considérés comme le peuple de l'Éternel. Mais Ésaïe leur reproche le manque de cohérence entre leur identité et leur comportement. En effet, ils étaient idolâtres et s'adonnaient à la divination tout comme les autres nations. Je continue le texte. « J'ai annoncé depuis longtemps les choses du passé. » J'en ai parlé, je les ai fait entendre, puis soudain j'ai agi et cela s'est produit, parce que je savais que tu es obstiné, que ton cou est semblable à un tendon de fer, et que tu as un front de bronze. Moi, je t'ai annoncé ces choses depuis longtemps à l'avance, je t'en ai informé avant qu'elles n'arrivent, pour que tu ne puisses pas dire « C'est mon idole qui a fait toutes ces choses, c'est ma statue de bois, mon image de fonte qui en a donné l'ordre. » Versets 3 à 5. Ésaïe souligne une nouvelle fois la souveraineté de l'Éternel sur l'histoire et donc sa capacité d'annoncer à l'avance ce qui va arriver. Les choses du passé sont toutes les promesses que l'Éternel a faites aux patriarches depuis Abraham et qui se sont réalisées. C'est la 6e fois que Ésaïe utilise comme argument des prédictions anciennes qui se sont accomplies. Il les rappelle ici afin d'en tirer une application pratique. Si l'Éternel a autrefois annoncé à l'avance tant d'événements qui ont eu lieu, c'est à cause de l'incrédulité du peuple. En effet, comme Dieu le savait dur de cœur et enclin à l'idolâtrie, il a voulu lui ôter toute possibilité d'attribuer les prophéties accomplies à une fausse divinité plutôt qu'à lui-même. Je continue. Tu as bien entendu, regarde de tes yeux, tout s'est réalisé, n'allez-vous pas l'annoncer, vous aussi? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, que tu ne connais pas. Elles sont créées maintenant et non depuis longtemps. « Jusqu'à ce jour, tu n'en avais pas entendu parler pour que tu ne puisses pas dire « Je le savais déjà ». Non, tu n'en savais rien, tu ne l'avais pas entendu, jamais auparavant, ce n'était parvenu à tes oreilles. Car je te connaissais et je te savais traître. Oui, tu t'appelles révolté de naissance. » Versets 6 à 8. Les choses nouvelles sont de plusieurs ordres. D'une part, celles qui vont arriver dans un avenir moyennement proche comme l'exil babylonien et la délivrance grâce au Perse Cyrus, et d'autre part, les choses qui sont plus éloignées ou qui auront lieu à la fin des temps concernant le salut futur, c'est-à-dire la venue de Jésus et son sacrifice pour les péchés du monde, son retour en tant que Messie, son royaume, la restauration d'Israël et la création des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Je continue le texte. Par égard pour moi-même, je retiens ma colère. Par égard pour ma gloire, je me refraine pour ne pas te détruire. Je t'ai fait fondre, mais non pour en retirer de l'argent. Oui, je t'ai éprouvé au creuset du malheur. C'est par égard pour moi, uniquement pour moi, que j'ai agi ainsi. Comment me laisserais-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Versets 9 à 11. Israël mérite d'être jugé aussi sévèrement que les autres nations. Mais l'Éternel va seulement le punir en l'envoyant en captivité, bien qu'il sache d'avance qu'il n'obtiendra pas de l'argent fin. C'est-à-dire que l'opération ne donnera pas de bons résultats. Néanmoins, Dieu délivrera son peuple de l'exil et lui fera grâce par égard à lui-même. Je continue. « Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'appelle, je suis toujours le même. Moi, je suis le premier, je suis aussi le dernier. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et déployé le ciel. Dès que je les appelle, ensemble, ils se présentent. Cet homme que l'Éternel aime accomplira ce qu'il désire à l'encontre de Babylone. Son bras se lèvera contre les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé. » Moi qui l'ai appelé et qui l'ai fait venir, je ferai réussir ses entreprises. Versets 12 à 15. Le prophète a déjà parlé des deux caractéristiques uniques à l'Éternel, sa puissance créatrice et sa capacité de prévoir les événements futurs. Ésaïe répète ici la prophétie du triomphe de Cyrus sur les Babyloniens. Je continue. « Approchez-vous de moi, écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'étais présent, et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé, et son esprit est avec moi. » Verset 16. Ce passage est un peu compliqué. Ésaïe rappelle d'abord à Israël que les prophéties qu'il a faites étaient connues de tous, et leur accomplissement, la preuve que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Ensuite, il dit « Et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé, son esprit est avec moi. » Ces paroles sont tout à fait applicables aux prophètes. Cependant, lorsque Ésaïe mentionne l'Esprit de Dieu accompagnant quelqu'un, il s'agit du serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire le Messie. Ésaïe veut donc d'une part l'introduire, parce qu'il parlera de lui un peu plus loin, et d'autre part souligner que la délivrance d'Israël de l'exil babylonien par Cyrus le Perse annonce une libération bien plus importante et qui sera opérée par le serviteur de l'Éternel. Je continue. « Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre, et le Saint d'Israël, moi, je suis l'Éternel ton Dieu et je t'instruis pour ton profit, je te fais cheminer dans la voie où tu marches. » Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta descendance serait comme le sable et ta progéniture comme les grains de sable. Ton nom ne serait pas retranché, anéanti devant moi. Versets 17 à 19. Ce soupir de l'Éternel exprime toute sa tendresse à l'égard de son peuple. S'il lui avait été fidèle, il ne partirait pas en exil, mais connaîtrait dès à présent la paix, la justice et la prospérité que Dieu avait promise à Abraham et qui est symbolisée par les images du fleuve et de la mer. Indirectement, Ésaïe souligne que l'ancienne alliance a été un échec en raison du refus d'Israël de marcher dans la voie que Dieu lui indiquait. Je continue. « Sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens, avec des cris de joie, publiez la nouvelle, proclamez-la partout, répandez-la au loin jusqu'au bout de la terre. Dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob, Quand il les a conduits à travers le désert, ils n'ont pas souffert de la soif, car il a fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc et les eaux ont jailli. Versets 20 et 21. Israël est sommé de sortir de Babylone, tout comme autrefois Abraham de son pays natal et les Hébreux d'Égypte. Mais chaque fois, c'est l'Éternel qui a pris l'initiative. Le retour de l'exil est comparé à un nouvel exode, et comme Dieu a pris soin de son peuple lorsqu'il traversait le désert, il en sera de même quand il quittera Babylone. Je finis le chapitre 48. Mais, a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. Verset 22. Cette première section de la deuxième partie du livre se termine avec cet avertissement solennel adressé aux idolâtres qui persisteraient dans leur rébellion contre Dieu. Ceux qui refusent de se soumettre à l'Éternel ne connaîtront jamais la paix, car ils seront exclus du salut et de la vie éternelle.